Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement. Et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Média. L'incertitude nous submerge toutes et tous en ce moment, alors que nous traversons ensemble cette période inédite de confinement. On se demande comment va se passer le déconfinement, quel monde nous attendra après cette longue période de distanciation sociale. Pour certains, les questions liées à l'incertitude sont plus angoissantes que pour d'autres. Vous vous demandez si vous allez retrouver du travail, si votre entreprise se relèvera des pertes engendrées par le confinement. Pour les étudiants, si vous pourrez passer les examens initialement prévus cette année. Ces incertitudes qui planent en ce moment au-dessus de nos têtes, Laurette les connaît très bien. Elle est étudiante en journalisme et devait être diplômée cette fin d'année. Elle craint qu'à la rentrée de septembre, son arrivée sur le marché du travail soit encore plus dure que ce qu'elle avait initialement imaginé.
C'est vrai qu'actuellement, je suis assez angoissée par mon avenir professionnel, étant donné que je suis en fin d'études. Le truc qui est un peu perturbant, c'est de terminer ses études du jour au lendemain sans vraiment s'y préparer. Si brutalement, c'est difficile et je pense que j'avais besoin d'encore quelques semaines. C'est pas un sentiment qui m'est totalement étranger, l'inquiétude concernant mon entrée sur le marché du travail. Chercher du travail, être confronté au chômage, etc. C'est toujours des choses qui m'ont fait peur. C'est des choses que j'ai redoutées longtemps. Et aujourd'hui, la situation actuelle, la crise face au Covid-19, ne fait qu'accroître ce sentiment d'incertitude et d'angoisse. Après, je suis d'un naturel à rigoler et donc j'ai plutôt tendance à rire de cette situation et être dans le déni. Même l'autre jour, j'ai rêvé que j'étais en entretien d'embauche post-confinement donc et qu'on me demandait ce que j'avais fait pendant cette période de confinement et que je disais ben rien parce que je me renseigne, je m'informe mais pour autant je produis rien en tant que tel. Et le fait de m'être imaginé quelqu'un me poser la question « qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement ?» je me suis dit que c'est révélateur de l'angoisse que je ressentais en ce moment et que c'était assez violent parce que j'avais peur que ça me porte préjudice par la suite. J'ai peur que cette période d'inactivité, elle se voit sur le CV et que ce soit mauvais pour moi. Enfin bref, on remet tout en question sans arrêt et c'est assez fatigant, je dois le dire.
Pour en savoir plus sur ce sentiment qu'est l'incertitude, nous avons contacté Fabrice Clément. Il est professeur en sciences cognitives à l'Université de Neuchâtel et il étudie depuis près de 30 ans le phénomène de la croyance. Fabrice Clément se demande notamment comment la croyance agit sur l'individu et pourquoi elle a une importance au niveau du collectif. Lucille Rousseau-Garcia lui a tout d'abord demandé quelle était la fonction de ce sentiment qu'est l'incertitude, que l'on connaît particulièrement en cette période de confinement.
Ce sentiment, d'une certaine façon, nous donne une sorte d'alarme intérieure qui nous indique en gros qu'on n'est pas à même, ou on serait pas à même d'agir en fonction des informations qu'on a en notre possession. On devrait, autrement dit, attendre, avoir plus d'informations avant de prendre une décision. Et donc, ce sentiment est très négatif et d'une certaine façon, il nous encourage à chercher davantage d'informations. Il y a aussi cette fonction interne d'adaptation à notre environnement. Donc, on est encouragé à chercher davantage d'informations. Par contre, lorsque ces informations sont pas claires, sont difficiles à trouver, etc., le sentiment va continuer à exister chez nous. Et encore une fois, il faut bien le dire, c'est un sentiment désagréable. Et c'est une des raisons pour lesquelles on aura tendance, parfois, à prendre n'importe quelle information pour diminuer ce sentiment d'incertitude plutôt que de temporiser. Donc, on est souvent dans un équilibre assez délicat où l'incertitude nous donne comme information, il faut que tu aies cherché de l'information, il faut que tu en saches davantage avant d'agir. Et en même temps, si cette information n'est pas disponible ou si elle est contradictoire, s'il y a des sources d'informations contradictoires, on risque justement de ne pas être capable d'aller plus loin, de ne pas être capable de diminuer ce sentiment d'incertitude. Et là, ça peut être assez anxiogène et difficile à vivre. On a la possibilité, très souvent, de mettre comme entre parenthèses ces situations d'incertitude. Il y a énormément de situations dans la vie courant dans la vie quotidienne où on peut rester en état d'incertitude. Vos croyances sur votre environnement, d'une certaine façon, vont rester relativement floues. Par contre, il y a d'autres situations où il vous faut agir, où il vous faut prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins lourdes sur votre avenir, où là, tout d'un coup, on peut être envahi justement par une anxiété, une angoisse par rapport à cette incertitude. Donc, si vous avez des solutions qui vous semblent, plus ou moins appropriées. Si ces solutions, vous les mettez en action, ça va réduire ce côté anxiété lié à l'incertitude. Et il y a toute une série de petites solutions que les gens prennent aujourd'hui au quotidien. Prendre un certain nombre de vitamines, porter un masque même fait maison dans certains types de contextes, etc., qui renvoient en fait à des sortes de micro-rituels qui vont être vu comme ou être ressenti par notre organisme comme des petites solutions à un problème et qui vont donc réduire ce sentiment d'incertitude et donc nous aider à vivre en quelque sorte.
Pourquoi est-ce que même quand on est en sécurité, en bonne santé, chez soi, cette période où tous nos repères sont complètement chamboulés peut être très difficile à vivre ?
Je pense qu'une des raisons, et c'est une des peut-être un des enseignements à tirer de cette aventure commune que nous vivons, est que on a une sorte d'écho du monde, d'écho de ce qui se passe autour de soi, que aujourd'hui on n'a plus la possibilité d'avoir. On en est réduit maintenant à de la maison, consommer des médias plus ou moins officiels ou sur des réseaux sociaux des choses plus ou moins étranges parfois, sans pouvoir vérifier que ce que l'on entend a un impact chez les autres. Et dans ces petites habitudes du quotidien, dans ces petites routines, on a cette espèce de possibilité de se plonger dans un environnement social sans forcément être impliqué dans une interaction forte, mais où on a la possibilité de vérifier que ce qui se passe est important, pas si important, vital pour les uns, pas tellement pour les autres, et de certaines façons de se dévaluer en quelque sorte le degré d'importance ou de gravité de ce qui se passe au quotidien. Donc le fait d'être isolé, le fait de ne pas pouvoir bénéficier de cette espèce de feedback, de cette caisse de résonance sociale, va effectivement renforcer ce sentiment d'incertitude, va conduire parfois à rechercher des informations de façon frénétique sur Internet pour essayer de compenser un tout petit peu ça. Alors que justement, dans la vie quotidienne, entre guillemets, normale, lorsque l'on sort au quotidien, lorsque l'on est dans les transports publics, lorsqu'on est au café ou même lorsqu'on se balade dans la rue, on a, qu'on le veuille ou non, accès à des informations, accès à des conversations, accès à des opinions qui sortent justement de ces chambres d'écho, en quelque sorte, auxquelles le web nous condamne.
Et alors, qu'est-ce que cette difficulté à vivre dans une période incertaine dit de notre société, de son fonctionnement et de notre rapport au futur ? Est-ce qu'on se projette trop dans le futur en général ? Et est-ce que c'est pour ça que, quand il y a un imprévu ou de l'incertain, on se sent tout de suite très déstabilisé ?
Notre cerveau, en fait, c'est une machine à prédire le futur. Si notre cerveau s'est autant développé au fil des centaines de milliers d'années qui nous ont précédés, c'est parce que justement, en prédisant le futur, on a en quelque sorte un coup d'avance. On joue un coup d'avance par rapport à des concurrents dans un certain espace vital. Donc l'importance d'anticiper le futur, elle est fondamentale. Par contre, il est vrai que elle va aussi avec une certaine forme d'anxiété, parce que si on se projette notre futur, eh bien, au bout d'une projection pas si lointaine que ça, ben, on arrive forcément à notre fin, et donc à des questions existentielles fondamentales. C'est la fin de la vie, qu'est-ce que va-t-il passer ensuite, etc. Donc, du point de vue de l'évolution, notre capacité à prédire le futur, elle a été de pair, en fait, avec une augmentation de l'angoisse, une augmentation de l'anxiété, qui est simplement liée à la possibilité de se représenter sa propre fin, sa propre mort, et donc aussi à toute une série de récits, de systèmes de croyances, élaborés dans toutes les cultures du monde, je crois qu'on peut le dire, pour essayer de tempérer cette anxiété, et donc d'imaginer des grands récits qui nous permettent de diminuer en quelque sorte cette angoisse qui est liée à cette projection dans le futur. Donc là, il faut s'attendre, je pense, à un très très fort débat qui, d'une certaine façon, est aussi lié à l'incertitude sur la bonne manière de continuer à vivre ensemble. Et quand il y a incertitude, les idéologies reviennent très fort, des vieilles convictions vont revenir très fort. Et le débat, à mon avis, va être très très dense dans les prochains mois.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de l'avenir, qui ont peur pour leurs études, pour leur entrée sur le marché du travail. Il y a aussi beaucoup d'adultes qui ont peur pour leurs emplois. Comment faire, selon vous, pour ne pas se laisser submerger par l'incertitude en ce moment, alors qu'on est confiné chez nous ?
Alors, il est vrai que pour les jeunes, pour les en cours de formation, qui approchent de la fin de la formation, pour les personnes qui craignent pour leur emploi, le degré d'incertitude est grand, et l'angoisse est souvent immense. Je ne sais pas s'il existe une solution miracle. Avoir un tout petit peu autour de moi, regarder un tout petit peu comment les gens opèrent, ceux qui souvent semblent mieux s'en sortir, c'est ceux qui, même lorsque un certain objectif devient impossible, se constituent des nouveaux objectifs. Et ces petits objectifs permettent de recréer cette impression qu'on avance, qu'on va dans une certaine direction, qu'on a un certain nombre de récompenses quand les choses fonctionnent, etc. Je pense que si on n'a plus ce sentiment d'avancer, d'aller dans une certaine direction, qu'on a l'impression de rester sur place, de faire du sur place, là, c'est extraordinairement anxiogène. Donc, si une petite solution il y a, même si elle n'est pas forcément évidente, hein, quand il y a des gros niveaux d'incertitude, mais c'est de se refixer des petits buts, peut-être des choses qu'on avait, des objectifs qu'on avait un peu oubliés, de les réactiver et de les réaliser un petit peu jour par jour, d'une certaine façon.
Merci à Laurette et à Fabrice Clément d'avoir participé à cet épisode. Lucille Rousseau-Garcia a fait les interviews. Jean-Baptiste Aubonnet a mixé cet épisode et Nicolas Degélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Et si vous aimez Émotions, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis Media, comme le Book Club, Entre, Manger ou encore Travail en cours. Bonne écoute et à bientôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.